France Culture.
Le journal de la rédaction tout de suite, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Colère, désarroi et incompréhension des décisions. Les agriculteurs se remobilisent face à la politique sanitaire du gouvernement pour tenter de contenir l'épidémie de dermatose nodulaire touchant les bovins. Une dizaine de blocages sont recensés, notamment en Haute-Garonne. Autre désarroi, celui des organisations professionnelles du livre face à la baisse des crédits alloués à leur secteur et à la lecture dans le projet de loi de finances. Gelé indéfiniment, les avoirs russes détenus en Europe, peut-il accélérer la paix en Ukraine? C'est ce que veulent croire les 27, alors que les négociations de paix se poursuivent à Berlin ce week-end. Enfin, elle part à la recherche de coraux résistants au changement climatique. La goélette Tara repart en mission demain, direction l'Amazonie des mers. On en parle avec la co-directrice de cette expédition, Paola Furla, invitée de ce journal. Les éleveurs toujours mobilisés ce matin dans le sud-ouest de la France. Une dizaine de blocages sont encore recensés, notamment sur l'A64 reliant Bayonne à Toulouse, bloquée depuis hier par des éleveurs. À l'appel notamment de la coordination rurale et de la Confédération paysanne, opposée à la politique sanitaire du gouvernement et à sa stratégie d'abattage des troupeaux face à la dermatose nodulaire contagieuse. Alors que la ministre de l'Agriculture a annoncé ce matin la vaccination d'un million d'animaux dans le sud-ouest du pays dans les semaines à venir. L'annonce de la ministre ne fait pas taire la colère, notamment à Carbonne, en Haute-Garonne, où vous vous trouvez, Tim Rosturk. Bonjour.
Bonjour à tous.
Les agriculteurs ont donc passé une première nuit de remobilisation.
Quelques dizaines, oui, à se relayer toute la nuit pour maintenir ce barrage sur l'A64. Un blocage illimité, prévient Bertrand Loup, vice-président de la Chambre d'agriculture, l'un des dirigeants de ce mouvement, décidé à faire plier le gouvernement.
On ne partira pas tant qu'on n'aura pas gagné. On n'a plus rien à perdre. On a des éleveurs encore hier qui nous disent « si ça arrive chez moi, je me fous en l'air ». On a trop de drames familiaux qui arrivent, on a trop de suicides, on a trop de dépressions, on a trop de noyaux familiaux qui explosent, qui éclatent. Et donc c'est un combat humain avant d'être un combat professionnel. On se battra pour ça jusqu'au bout.
Le combat est porté par les éleveurs, menacés par la dermatose, soutenus par leurs élus locaux comme le maire PS de Carbonne, Denis Turel, présent sur le barrage, alors que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, refuse de venir ici discuter avec les éleveurs.
En politique, souvent, il faut du courage pour affronter les situations. Alors, ceux qui pensent que la politique se fait que d'un bureau à Paris, c'est une vision de la France. On arrive à une chose qui se passe dans ce pays, du désarroi, de la colère et de l'incompréhension des décisions politiques. Voilà.
Au-delà de la maladie, la colère est bien plus profonde sur les difficultés du monde paysan. Près de 2 ans après leur première mobilisation ici, rien ou presque ne s'est amélioré, assurent ces agriculteurs.
Timo Rosturk à Carbonne, en Haute-Garonne. C'est une réduction de crédit passée relativement inaperçue dans le projet de loi de finances soumis au vote du Sénat lundi, avant la commission mixte paritaire entre les deux chambres. Celle concernant le programme 134, livre et industrie culturelle, dont le budget se retrouve considérablement amputé, déplore un collectif d'organisations professionnelles du livre dans une tribune publiée dans Le Monde hier, alors que le gouvernement avait pourtant lancé en juillet dernier les états généraux de la lecture pour la jeunesse. Un paradoxe dénoncé par Eleonora Leboeck, secrétaire de l'association bibliothécaire de France, co-signataire de cette tribune.
Le PLF, comme il est aujourd'hui et comme il évolue au fur et à mesure, baisse entre, on avait l'année dernière 12,9 millions, il y a 5,4 millions prévus pour l'année prochaine. C'est spécifiquement sur des aspects qui soutiennent directement les auteurs, les librairies, l'édition, les festivals littéraires et tout ce qui peut se passer dans les territoires. Et puis, on a une réduction de 25% des crédits alloués au Centre National du Livre, le CNL, qui permet de soutenir des aspects sur l'édition, sur la traduction de livres. Les conséquences d'une baisse budgétaire de ce type, c'est déjà la fragilisation d'un écosystème qui fonctionne bien. Il y a quelques mois, un rapport avait été publié sur le fait que les crédits de l'État alloués justement à la politique du livre étaient bien dépensés. On sait que ce milieu, et c'est l'objet de la tribune, il y a vraiment toute l'interprofession et le monde de la lecture qui se mobilisent. En fait, on travaille tous ensemble tous les jours pour essayer de réfléchir aux enjeux actuels, l'écologie, la diversité de l'offre, la question de l'accès aux livres partout dans tous les territoires, et se dire que voilà, on le soutien n'est pas conservé. Il fragiliserait les emplois, la création, le nombre de livres publiés, le nombre de points d'accès aux livres. Et ça, ça nous inquiète.
Éléonora Le Boeck répondait à Flore Caron pour France Culture. C'est le premier téléphérique urbain inauguré en Île-de-France. Baptisé le C1, il est déployé sur 4,5 km dans le Val-de-Marne, de la station Pointe-du-Lac à Créteil à la station Villanova à Villeneuve-Saint-Georges. Dans un département entrecoupé de voies rapides et de lignes ferroviaires, ce mode de transport aérien desservira des communes jusqu'ici enclavées. Mis en service ce matin à 11h, Augustin Ourlier a pu le tester.
Je peux tout de suite vous rassurer, le téléphérique est plutôt confortable. 10 places assises dans cette petite boule bleue qui décolle dans le ciel. Avec les vitres, quand on est en haut, on a une vue à 360, comme à la montagne. Et justement, quand on est en l'air, on peut voir pourquoi ce téléphérique a été construit. Des rails, des entrepôts, des gros échangeurs routiers. Avec ce téléphérique, les habitants du Val-de-Marne pourront contourner tous ces obstacles. Ça va diviser par deux le temps de trajet entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. On passe de plus de 40 minutes en bus à une vingtaine de minutes en téléphérique. Tout ça au prix d'un ticket classique ou d'un abonnement Navigo.
Alors ce projet de téléphérique francilien est né il y a plus de 20 ans grâce à l'ancien maire de Limeil-Brévannes sur le trajet de la ligne, Joseph Rossignol. C'est lui qui avait lancé cette idée pour désenclaver cette zone sans métro ni RER. Pourtant le projet était plutôt mal parti, se souvient l'ancien maire.
Je pense avoir mal vendu mon projet au début, hein, parce que je crois que les gens étaient assez narquois, ou dubitatifs, pour le moins. Les premières années ont été un peu longues. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des routes, pas de monter des pylônes. Et puis, il a fallu des autorisations pour survoler, notamment. Une base de pompiers, par exemple, survoler aussi des voies express, avec des interrogations de la part de tous, savoir ce qui pouvait se passer en cas de problème. Est-ce qu'on pouvait jeter quelque chose sur les voies? Ce type de questions, c'est un projet un peu fou, mais pas si fou que ça, puisque les intentions deviennent réalité.
Propos recueillis par Raphaël Benabdel Moumen.